Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui interview numéro 2, Clément Blanchet. Bonjour Clément.
Bonjour Myriam.
Bon, on a parlé de plein de choses la première interview. D'ailleurs, j'invite mes chers auditeurs de Radio Immo à écouter en podcast. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de l'agence, toi comme comme enseignant. C'est quoi un petit peu l'ADN de l'agence?
Alors, l'ADN de l'agence, tout simplement, on va dire qu'elle est plurielle et elle est dans une dynamique de comprendre la société pour mieux nourrir l'architecture. Donc, on a une
sorte... C'est ouvert.
C'est ouvert. Mmh. Et puis, c'est pluridisciplinaire. Il y a plein de générations dans l'agence. Il y a plein de sources d'informations.
Et de métiers différents. Il n'y a pas que des archis.
Alors, il y a beaucoup d'architectes, bah mais
oui,
en fait, je me suis rendu compte qu'on était tous un peu tout. Il n'y a pas cette dynamique de silo avec l'urbain, le paysage, le design intérieur, etc.
Transverse.
On est très transverse, absolument.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as le sentiment de répondre quelque part, quand tu réponds à une consultation, à un concours, tel ou tel projet, de répondre d'une manière différente, plurielle?
Alors, peut-être qu'en fait, mon rapport à l'enseignement et à mon rapport un peu à ma
ouais.
dynamique passée, c'est-à-dire que mes 10 années à Loma m'ont nourri, m'ont permis de découvrir le mythe qui n'en était pas un, de découvrir des générations, découvrir des penseurs, découvrir des acteurs, découvrir plein de choses. Et quand je suis revenu en France de manière plus simple et directe en 2014, bah, j'ai compris qu'en fait, il y avait cette dynamique qui était en moi. Et donc, l'enseignement m'a continué à réfléchir, à dire que finalement...
En toi, mais pas nécessairement chez les donneurs d'ordre à l'époque. Peut-être que maintenant un peu plus, mais
oui,
c'était il y a 10 ans.
C'est vrai. Donc, il y a une sorte de dynamique, en fait, qui me fait penser qu'on peut être encore plus fort en questionnant sa culture.
Alors, quand tu enseignes, par exemple, à HEC, c'est quoi la culture des jeunes businessmen par rapport à l'architecture et à l'urbanisme? Est-ce qu'ils ont le sens du sensible?
Alors, j'enseigne à l'ESSEC, à la chaire urbaine, mais je fais HEC, le plan guide
excuse-moi.
De HEC.
Ouais, c'est ça.
Et donc, j'ai rencontré,
enfin,
on va dire...
ESSEC, HEC...
on est bien d'accord. Mais non, mais du coup, tout simplement, je pense qu'en fait, il y a une sorte de lecture beaucoup plus brutale, beaucoup plus directe, beaucoup plus sensible. Et en fait, j'ai l'impression que les
beaucoup
acteurs...
Beaucoup plus sensibles aussi.
Oui, étrangement.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, ils sont directs.
Ouais.
Ils expliquent le sentiment de ce que les médias nous disent, mais de manière beaucoup plus directe.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, de parler à des acteurs qui ne sont pas archi et leur parler de comment on construit le fil entre tous les acteurs de la profession, eux, ils sont là en mode, mais pourquoi ça? Oui, j'aime pas, comment on fait? Donc il y a une sorte de lecture beaucoup plus directe. Et avec mes étudiants américains, c'est aussi la même dynamique. Il y a une sorte de lecture croisée, mais directe. Et ça permet finalement, par rapport au modèle très français, de le questionner.
Pourquoi? On est plus dans la courtoisie, les révérences et les salam alek chez les Français?
Je pense que malheureusement, il y a un peu de ça. Et peut-être qu'il faut re-questionner le modèle.
D'accord. Bah, tout le monde se re-questionne en ce moment, parce que quand tu discutes avec les promoteurs, ils se re-questionnent. Les aménageurs se re-questionnent. Les fonciers deviennent des terrains, deviennent des sols, donc se re-questionnent aussi. C'est un peu compliqué tout ça, non?
Oui, mais du coup, il faut rester dans un opportunisme raisonné. Il faut travailler la question avec un dénominateur commun qui est l'ADN de l'écologie, le travail sur une dynamique de croissance raisonnée, intelligente ou de décroissance parfois. Donc,
alors justement, j'aime bien que tu parles de ça. Donc, la décroissance parfois. Donc, comment fait-on pour garder l'idée du bien-être, hein, et que tu développes sur tes projets, tout en étant raisonnable et tout en étant quelque part dans cette déconsommation, voire commencer un petit peu à être plus proche du domestique, plus proche du simple?
Je pense qu'en fait, on est des veilleurs. Les architectes sont des veilleurs, des observateurs. Et on doit être capable de se questionner sur les échelles qu'on
tout
travaille.
Tout le temps, tous les
tout
jours.
Tout le temps, tout le temps. Et on est dans cette dynamique du zoom
des
zooms.
Tu sais, je dis à l'agence, chaque jour est un nouveau jour.
Absolument.
Ben et en fait, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qui fait que toi, dans ton agence, dans ton microcosme, transversalement, à travers l'enseignement et à travers tes donneurs d'ordre, tu as ce sentiment de faire...
En fait, je construis une analyse du temps. Je construis comment la ville a grandi, mm-hmm. je construis comment les dynamiques
sur chaque
politiques.
Projet.
Exactement. Et à chaque fois, il y a une sorte de lecture, on va dire, apaisée, calme, diagnostiquée. Donc en fait, c'est comme un docteur, on diagnostique et à un moment donné, on se dit quel est le raisonnement qu'il faut apporter sur ce site, sur cette situation, sur cette complexité.
T'as en tête comme ça un projet, comme ça, brûle pour point, sur lequel tu peux me dire, tiens, voilà comment j'ai fait, voilà comment l'agence s'est positionnée, a répondu sur tel ou tel sujet.
C'est très simple, par exemple, là, on
manière a... un petit peu plus...
Par exemple, très simple, on a le projet du Stade Bauer qu'on fait en co-conception
avec SCO.
On est en train de développer. Et en fait, toute la dynamique du projet, je me rappelle très bien pendant le concours, ça a été de dire comment faire un stade qui n'est pas un stade mm-hmm. et comment on peut avoir une dynamique où le porteur a une valeur ajoutée sur le fait qu'on peut construire des choses intelligentes en bois, structure mixte, etc., avec une hybridation d'un programme. Mais plutôt que de faire une sorte de figure autiste fermé avec un sol qui serait que du commerce avec une CDAC difficile à trouver avec 15 000 mètres carrés de commerce, on a transformé ça dans une dynamique urbaine où on déclenche la
ville. Après, le site était bien particulier quand même.
Il est particulier.
Une obligation absolue de,
pour le
coup de tisser
avec la ville. Et de créer de la ville et de continuer l'âme initiale. Donc on parlait d'âme lors de notre dernier entretien. C'est l'âme de l'architecte, il doit être dans une dynamique de comprendre les résonances actuelles, les flux, les problématiques locales. Et c'est ainsi qu'en
fait...
Il faut avoir cette
d'aller
curiosité.
D'aller au-delà de son métier.
Et puis, il faut surtout se dire que je refuse à l'agence d'être spécifique. Mm-hmm. J'avais jamais fait de pont, il est en chantier, j'avais jamais fait de stade, il l'a fait, on a fait des studios d'enregistrement à Radio France. Bref, on est dans une dynamique et récemment, on est en dialogue exclusif avec l'État parce qu'on est en train de travailler à la question de l'avenir de cette... abbaye cistercienne qui est Clairvaux, dynamique incroyable.
Donc,
en fait, l'agence est dans une dynamique où on raisonne, on questionne.
Clairvaux, par exemple, donc, qui est quand même, pas n'importe quel endroit. Justement, comment faites-vous pour, à l'agence, ou comment tu as introduit une espèce de cellule de réflexion, de groupe de travail qui... réinterroge différemment pour, justement, sur ce type de projet, par exemple.
Je pense que c'est en lien...
Ou ta matière, puisque ta histoire.
Oui, mais en lien à la dynamique de l'agence, où en fait on travaille tous les thèmes et où toutes les dynamiques permettent de raisonner l'architecture. Et quand on a une sorte de conscience permanente de ce que Scarpa a fait ou d'une dynamique sur la problématique du patrimoine, etc., eh bien, en fait, on a réussi à assembler toutes les dynamiques, par contre, qui peuvent convoquer, par exemple, le paysage, la problématique d'une histoire. Et en fait, il faut bien comprendre que l'architecture est une histoire à construire. Et on a construit un avenir un petit peu nouveau qui traite à équivalence le passé, le présent et le futur.
Alors, on parle de ça à la lumière aussi de cette obligation absolue de réfléchir à la ville sur la ville et de réhabiliter, restructurer, rénover des bâtiments, puisqu'on est quand même dans cette logique-là aussi. Ça réinterroge le passé et ça réinterroge aussi quand même des architectures des années 70-80 où là, pour le coup, l'histoire... pas terrible quand même, non ?
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, j'ai démontré que personne n'était capable de savoir qui avait raison pour la définition du patrimoine. Mmh. Et en fait, il faut savoir que par exemple, à Clairvaux, il y a eu des grèves dans les années 70 de bâtiments extrêmement militaires, c'est le terme. Et en fait, on a justifié qu'il fallait calmer le jeu et peut-être les intégrer dans la dynamique du palimpseste et de voir comment on pouvait les transformer. Et c'est cette relation-là, en fait, de la transformation, mais pas forcément de la déconstruction. Et ça, ça m'intéresse
évidemment.
Énormément.
Le bilan carbone de la déconstruction, il est quand même très mauvais.
Oui, faut changer le métier aussi de l'architecte. Je voulais rajouter ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, on doit questionner les programmes et les usages. Et en fait, j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, l'architecte a plus de pouvoir qu'avant sur ces problématiques de programmation.
Si c'était comme ça il y a 20 ans. Non, mais j'exagère un peu, mais je me dis que effectivement, je sais pas si ce que tu vis ou ce que tu ressens en tant qu'architecte est ressenti par la majorité d'entre nous en Île-de-France ou dans les grandes métropoles, on n'a pas toujours cette liberté du programme, de partager le programme. Est-ce que tu as l'impression que sur certains projets, là par exemple en dialogue exclusif avec l'État sur Clairvaux, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des fois où tu bouscules le programme, parce que c'est quand même l'État, je fais un programme, je prends un programmiste, je machin, etc., je lance une consultation. Comment on fait pour bousculer les choses,
hein? En fait, je considère qu'on a à l'agence la capacité de questionner les usages un peu de manière plus libre. Et souvent dans les concours, que ce soit des concours publics,
et de bousculer,
privés, c'est des petites choses, mais ces petites choses font beaucoup. Ces petites choses transforment un modèle économique et en même temps réveillent des usages nouveaux, travaillent des questionnements. Et en amont de tous les projets, désormais, je me refuse à être simplement dépendant d'un programmiste, mais plutôt de questionner les besoins réels. Parce qu'en fait, dans le processus de conception, c'est en amont que la force et le sens et l'essence même de l'architecture vient.
Bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire que sur une consultation, tu prendras le risque d'aller plus loin, tu prendras le risque de réinterroger le programme, de le chahuter, quitte à se dire, bon, ben, je m'en fous, je perds si on considère que je suis pas celui qui a donné la bonne réponse.
Hein. Je suis souvent dans cette approche. Et en fait, on perd souvent, mais on gagne parfois.
Bon, ça dépend de l'intelligence du maître d'ouvrage.
Parfois.
Alors du coup, aujourd'hui, ça fait l'agence a quand même 10 ans.
Oui.
Hein? C'est quoi 10 ans? C'est quoi le si tu fais un petit peu le bilan et tu regardes les 20 ans à venir, c'est quoi?
C'est une très bonne question. On va dire que j'ai fait 10 ans à l'OMA, j'ai fait 10 ans CBA, j'ai une équipe mûre, j'ai une équipe capable, j'ai une équipe plurielle. On va continuer l'émancipation, on va continuer les questionnements. On est en train de se développer à l'international. On a plusieurs sujets au Danemark, on a un sujet à Bruxelles.
Ah, ici, j'ai vu en Géorgie,
Tbilisi,
j'adore.
On a un hôtel en chantier, voilà. Ouais. On a des sujets d'Urba en Chine. On travaille sur des questionnements. En fait, à chaque fois, je viens en mode, j'observe, je questionne et je propose.
D'accord. Et à l'international, t'es sûr d'avoir toujours la bonne réponse? Parce que c'est quand même pas évident d'être ailleurs, hein, dans l'ailleurs.
Hein. Je pense qu'en fait, c'est la chance de pouvoir venir en petit électron libre. Et en fait, c'est comme ça qu'on raisonne et qu'on a une analyse critique. En fait, le problème de la France, c'est parfois d'être trop français. Et donc moi, ça me permet de savoir si finalement j'aime ce que je suis en tant que français ou est-ce que je peux le rendre plus heureux ou différent. Et c'est comme ça, cette sorte de dynamique, en fait, de capturer des raisonnements, capturer des solutions techniques, capturer des pensées et les croiser sur des dynamiques, et ben je pense que ça, c'est fortement porteur.
Et alors, les 20 ans à venir?
Les 20 ans à venir, elles seront radieuses, j'espère.
Ah, génial. Bon, ben, merci Clément.
Merci,
j'ai
Myria.
Adoré ces interviews.
Mais moi aussi, merci beaucoup.
À bientôt, chers auditeurs.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.